Antoine Logini et ses géographies littéraires, des lectures qui nous promènent, qui nous emmènent dans la nature très souvent, hein, surtout aujourd'hui. Bonjour Antoine.
Bonjour Véronique.
Et nous allons donc partir voir les bêtes.
Voilà, ce titre est peut-être un peu étrange, mais comme il s'agit à chaque fois de se déplacer, de cheminer à travers les lieux et les textes, j'ai envie de le titrer « Partir voir les bêtes ». Donc avec l'idée cette fois-ci de partager entre deux mondes, hein, partir voir les bêtes à la fois par les prés, là, on va trouver les vaches, les troupeaux, en effet, qu'on va voir, et par les bois, les animaux sauvages. Donc, c'est un chemin entre monde domestique et monde sauvage, avec l'idée de cette proximité qu'on peut avoir avec les animaux d'élevage et l'appel qu'on a aussi pour aller voir les bêtes sauvages tapies dans des recoins qu'on ne voit pas d'habitude.
Donc, j'imagine que ce seront des bêtes assez grosses, hein.
On ne va pas trop voir les insectes. Non, c'est vrai, mais alors c'est peut-être lié à moi aussi. Moi, j'ai une passion pour les vaches, par exemple, et donc, en effet, j'ai choisi. Voilà, c'est assez commun, mais justement, j'ai choisi en particulier pour la première partie qui est les prés par les prés d'aller en la compagnie des vaches pour l'essentiel et avec cette idée hein, qui va un peu être le fil, c'est cette envie et ce besoin d'entrer en relation en fait avec les autres vivants que sont les animaux et là en effet des gros animaux que ce soit les vaches dans les prés ou les cerfs dans les bois par exemple qu'on suivra. Voilà. Et donc on commence par les bois, on part en voyage dans les bois, dans la compagnie des vaches. Alors j'ai eu envie...
Non, par les prés alors du coup plutôt, ouais.
Merci,
parce que les
Véronique.
Bois, il y a plutôt des cerfs dans les bois et des vaches dans les prés, je crois.
Oh, c'était le fil, mais je m'y perds, pourtant c'est simple. Et en effet, donc pour commencer par les prés, et j'ai intitulé ça dans la compagnie des vaches, même si je vais commencer un tout petit peu plus large, alors avec un poète qui n'est pas forcément connu, mais qui est un étonnant monsieur Norge, Géo Norge, c'est son nom en fait d'écriture. C'est un poète né en Belgique en 1898, qui a vécu à partir des années 40 en Provence et qui a écrit un texte, un recueil de textes qui s'appelle Le Stupéfait et qui a été édité en 1988. Et vous allez entendre là deux textes d'un jeune homme de 90 ans qui a une fraîcheur d'écriture qui est tournée vers l'enfance et vers une fascination pour les bêtes. Et je vais vous lire deux poèmes dont les titres, je vais vous donner les titres hein, qui sont très évocateurs, Les Souffles et Brouté, avec deux titres de poèmes qui portent l'essence même de la présence immémoriale et vitale des bêtes domestiques, et de la vache en particulier, puisqu'on va la trouver. Donc, Norge les souffle. Respirez fort, bêtes profondes, chevaux et chiens, ânes, taureaux. Ah, respirez plus longuement ce bleu qui se donne à la terre et que je respire après vous. D'être passé par vos poumons, le ciel prend encore meilleur goût. Chevaux et chats, vaches, cochons, j'écoute monter et descendre les jours lents, les nuits animales comme le sang du Créateur. Et quand les dormantes étables broutent l'espace universel, je sais mieux que la terre est ronde et que la vie est éternelle. Oh, dis-moi, ma femme de chair et d'âme, as-tu profond goûté ces souffles buveurs d'infini ? Alors viens, c'est de ton haleine que j'ai besoin pour respirer.
C'est vrai que les vaches soufflent.
Et là, on retrouve cette idée que je trouve très belle de cette terre qu'on a autour de nous, mais respirée par les animaux et redonnée, nous donne quelque chose aussi qui remonte à la nuit des temps et qu'on partage. Et donc ensuite, brouter, et là, on va trouver notre amie la vache. Brouter. Dans mes plus lointains étés, j'entends la vache brouter. J'écoute l'herbe qu'arrache les mâchoires de la vache. Oh, ma vache, broute, mâche, tu as tout le temps qu'il faut. Broute bien l'herbe et le temps. Le temps. Goûte lentement. Tu as l'Égypte et Lascaux qui ruminent sur ton dos. Ne lève pas trop les yeux sur ce monde nébuleux. Broute, mon antique bête. Broute cette jeune ère bête et la jeune éternité sourira de t'écouter brouter.
Très musical en plus.
Oui, très musical. Ouais. Et puis en effet, alors là, on retrouve quelque chose qu'on apprécie tous chez les vaches et les troupeaux de ruminants, c'est ce temps, on a besoin de cette lenteur.
Cette placidité.
Voilà, lorsqu'elles se regardent, lorsqu'elles nous regardent, lorsqu'elles broutent, lorsqu'elles sont allongées à passer le temps. Donc, côté d'un rêve. Alors voilà, ce recueil s'appelle Le Stupéfait, et c'est vrai que c'est des très beaux textes avec un émerveillement face à la vie qu'on sent, et quelque chose qu'on oublie parfois, c'est ce temps qu'on peut passer à regarder un troupeau. On retrouvera ça plus loin. Et pour continuer, en restant un peu sur quelque chose d'assez traditionnel, j'avais envie de lire un texte de Jean-Loup Trassard. Alors Jean-Loup Trassard est un écrivain né en 1933 qui se partage entre Paris et la Mayenne, mais il est originaire de Mayenne, il est originaire d'un milieu paysan, d'une petite ferme, et lui-même a conservé des bœufs qu'il élève en Mayenne. Et dans ses textes, Jean-Loup Trassard dresse un espèce d'inventaire de la société paysanne traditionnelle. Il parle beaucoup des outils, des objets, des gestes traditionnels. Et dans Parole de laine, hein, qui est paru en 1969, c'est un récit où il raconte le moment où il était enfant et qu'il fuyait l'école, parce que l'école lui déplaisait pour plein de raisons qu'on peut imaginer, et aussi pour l'odeur de l'école, par rapport à la ferme, l'odeur du préau, l'odeur des urinoirs pour les garçons, tout ça le rendait malade, et donc il fuyait, il se cachait à la ferme pour ne pas y aller, il se cachait en particulier dans l'étable, et à travers ça, il a développé une proximité particulière avec les vaches qu'il raconte dans Parole de laine. Voilà, donc Parole de laine. Je glissais au fond de l'étable éclairée, où les vaches ramenaient leur chaleur. Elles accouraient et se bousculaient pour prendre leur place. Je mettais les bras autour de leur cou en attachant le lien. Je me frottais à leur corps chaud, à leurs poils bringés plus fournis de l'hiver. Je m'accrochais aux cornes arrondies. Je suivais doucement du doigt les veines épaisses de leurs flancs et la peau molle de leur gorge pesait sur ma tête quand je passais devant elles sous leur cou. Je mettais l'oreille dans le poil, tout contre l'univers obscur et protégé, l'intérieur de leur ventre où j'écoutais le déplacement de bulles d'air et leur éclosion à l'entrée de l'une quelconque des salles d'estomac, où j'épiais la gestation silencieuse et la chaude circulation du lait. Les vaches arrachaient le foin au râtelier, et les froissements, leurs broyages inaccordés, leurs soupirs se mêlaient. La mère prenait une chaise accrochée au mur, et dans l'étable creusée de lumière, creusée dans le foin et peuplée de chaleur, teintait les premiers jets de lait au fond d'une seille de tôle. Ainsi le soir, et dans la nuit aussi les matins d'hiver, la mère étant assise sous les vaches, la joue contre leurs flancs, je m'allongeais dans la crèche devant les vaches, contre le madrier usé, poli par le frottement des coups et des cordes, je m'offrais à leur souffle. Elles me couvraient du foin qu'elles tiraient au-dessus de moi. Je les voyais hautes et chaudes, blanches sous le mufle et le cou. Et la lumière soufflait, je restais encore un instant dans l'étable totalement obscure, livré à la rumination des vaches, à leur lente respiration, puis je me dirigeais laissant traîner mes mains sur les pelages, vers la nuit qui paraissait claire au rectangle de la porte, je suivais les sauts à la maison.
On voit l'un qui est vraiment en proximité avec les vaches.
Voilà, oui, c'est fantastique. Là, on est du côté vraiment de l'enfance avec cette proximité de l'animal. Et il y a quelque chose de très sensuel dans sa façon de le dire, oui. qui est assez exceptionnel, qu'on a souvent oublié. Mais c'est vrai que cette idée aussi de la circulation du lait, des estomacs et la fabrication du lait, cette machinerie qui nous est assez... étonnante et qu'on n'imagine même pas, mais qui fait partie de la vache. Et moi, je pensais en le lisant aussi à quelque chose de traditionnel dans les fermes de montagne en particulier, où autrefois on vivait avec les bêtes pour la question de la chaleur. En fait, il n'y avait pas de... Il y avait juste la rigole.
C'était le chauffage.
C'était le chauffage. Et il y avait la rigole à purin qui séparait les bêtes des hommes. Et on dormait dans des lits clos, etc. On était chauffés par la bête, mais aussi on était bercés la nuit par leur rumination, par les petits bruits que faisait l'animal. Et je pense que les rêves devaient être peuplés de bonnes choses dans ces moments-là. Voilà, donc cette sensualité que l'on retrouve, alors là on est sur des textes un peu anciens et qui sont vraiment tournés vers la civilisation paysanne un peu traditionnelle, mais on le retrouve dans des textes plus contemporains. Et donc pour continuer, je suis allé vers une autrice belge et suisse, Anne-Sophie Subilia, dont le titre d'un livre m'a inspiré mon titre pour cette émission, Partir voir les bêtes, puisque ce livre publié en 2016 s'intitule Parti voir les bêtes. Et en fait, c'est un livre qui raconte, c'est un roman, hein, qui raconte le retour dans un village de campagne d'un homme d'âge intermédiaire et qui revient après être parti loin et qui arpente la campagne, la forêt, il observe, etc. Il se réinstalle, mais il ne retrouve plus son pays d'enfance qui est bouleversé par l'urbanisation et par un énorme chantier de route qui se met en place à ce moment-là et qui le perturbe profondément. Et là-dedans, moi, ce que j'ai aimé en particulier, c'est qu'il va...
C'est la solastalgie, d'ailleurs, ça s'appelle.
Ah oui, tout à fait, oui. Il retrouve... il a quelque chose en tête qu'il ne retrouve pas vraiment, mais il ne fait que le frôler tout le temps. Et dans ce texte, il va dire en particulier le bonheur qu'on a à revoir revenir les vaches dans les prés à la fin de l'hiver. Et c'est ce qu'on retrouve là en Bretagne en ce moment. Là, j'ai circulé ce week-end et c'était impressionnant. Les vaches sont là de
Elles
nouveau.
Là. Mmh.
Et ça fait du bien de les voir. Donc, deux courts passages d'Anne-Sophie Subilia. Donc, partie voir les bêtes. Quelques vaches remontent la gadoue du talus, l'échine sale. On n'a pas la moindre idée du quotidien d'une vache. Par contre, quand elles avancent à ta rencontre, en chaloupant d'un pas osseux, lorsqu'elles approchent essoufflées, l'œil immense, elles ont beau t'identifier à rien d'autre qu'à un promeneur quelconque, elles deviennent tes sœurs. C'est le mot qui te vient, toi, le cadet de trois aînés. Février les rend ténébreuses. Elles ont l'encolure et le museau si moucheté que tu n'en reconnais aucune. La forêt en arrière-fond agite son étoffe d'épines, et tout ça, les sapins, l'effort, la beauté fumante de tes frangines, ces cornes qui déchirent le ciel t'envahit. On a ressorti les vaches, mais si, elles te dévisagent avec naturel, tu leur sauterais volontiers au cou. Certains troupeaux ont l'air plus gras que d'autres. Celui de Tristan, par exemple, a l'air d'avoir passé un hiver plein de sobriété, tandis que les brunes et blanches de Vladek, on voit qu'elles sont nourries plus qu'il n'en faut. On voit tout de suite que ce sont des bêtes à viande, et que c'est là-dedans que piochera le camion animaux vivants quand il passera la prochaine fois. Mais pour l'heure, les revoir ainsi à l'air libre, leur sonna est bien fixé au cou, et savoir alors qu'un nouveau cycle est prêt à recommencer comme l'an passé, te fait reprendre un tout petit peu du poil de la bête. Confiance en l'amener à venir, puisqu'elles, au moins, sont encore là, en chair et en os, ruminantes. Les cornes embrochent le coucher de soleil. Elles ont le cuir cousu de bruine. Une, deux, cinq, 12. Elles arrivent sans heurts en te reniflant, la gueule fumante. Oui, c'est de nouveau toi. Elles te semblent encore plus dociles que d'habitude. On les laissera dehors la nuit, maintenant qu'il fait plus doux. Maxime te fait signe depuis l'étable. Si tu devais dire pourquoi tu as besoin d'être là, tu en serais incapable. Tu n'arrives pas à mettre des mots sur les choses importantes. C'est les vaches qui te troublent, ou bien le taureau là-bas? Tu restes longtemps avec elles au bord du pré. Tu vois rentrer Jonas et Maxime. Ça sent le curry autour de la ferme. Le soir arrive, puis la nuit tombe sur vous et les oiseaux se taisent. Certaines vaches se couchent. Alors tu te mets à marcher d'un bon pas, en coupant par tous les pâturages de la gloaille, les coteaux, la forêt. Tu passes à belle allure, ne t'arrêtant plus. Tu fends les herbes dans ton espèce de parka. Tu as l'impression de devenir toi-même une friche d'antan, sans âge ni pureté, à qui on ne demande rien et à qui rien n'appartient vraiment. Une terre vacante. Tu ne penses à rien de spécial. Tu foules l'herbe, tu gambades. Tu te sens léger comme un pays de plein vent, rugueux, tu te sens prince et mulot, tu deviens la nuit qui deviendra le jour.
Alors là, ce sont les vaches à cloche, on est où exactement?
Alors, je ne sais pas, c'est pas situé, mais je pense, et les Suisses, on est dans les Alpes en fait, ou à proximité, ou peut-être dans l'Ain. Je pense que c'est de la moyenne montagne, j'imagine bien l'Ain, mais en effet, on a des vaches avec des cloches.
Ce qui nous manque.
C'est vrai, on les entend. Et là, ce que je trouve assez fantastique dans ce texte, c'est ce bienfait de trouver les troupeaux, et on sent que lui, qui est un homme qui va pas très bien à ce moment-là, ça lui redonne cette énergie, il sent que la vie continue, le printemps redémarre, les vaches sont là, le cycle
c'est le retour
revient.
Des beaux jours.
C'est le retour aussi. Des beaux jours. Et lui-même se met à parcourir le territoire avec bonheur. Donc cette joie, les bienfaits de tous ordres qu'apportent les vaches dans les prés, on peut regretter. Alors par contre qu'ici, en effet, les vaches sont quand même beaucoup à l'abri et beaucoup d'élevages industriels hors sol aussi. Et là, on perd d'autres choses, mais on perd aussi ce bonheur de voir les vaches dans les prés. Pour continuer alors sur ce côté élevage, en restant un peu sur cet élevage, disons, traditionnel de la taille des exploitations agricoles familiales, j'ai extrait un poème de Franck Bouys. Alors Franck Bouys, c'est un auteur assez connu, écrivain de Corrèze, qui vit en Corrèze, et les plateaux du Massif Central, le Mille Vaches, le Cantal forment l'arrière-pays de ses romans, mais il a écrit des superbes romans noirs ruraux, qui sont à chaque fois, c'est magnifique, il y a par exemple Plateau, Glaise, Grossir le ciel, qui sont des romans qui se dévorent comme des thrillers, mais qui portent aussi tout un monde rural d'hier et d'aujourd'hui. Et il a publié en 2021 un recueil de poèmes plus personnels où il raconte son lien au territoire de Corrèze où il vit. Je vais lire Virgile. La dernière de ces bêtes vient de partir dans l'heure. La porte de l'étable n'est même pas refermée. Rectangle noir où danse la poussière. 70 années, passées à se lever dès l'aube pour s'en occuper bien mieux que sa famille. Le chèque est posé sur la table, traduit en ancien franc. Il n'a pas voulu assister au départ. Il a entendu gueuler sa bête et frapper du sabot contre la tôle du camion, pendant que le café descendait dans sa gorge comme une lame d'acier. Le bruit du moteur ne lui parvient plus. Il rassemble les miettes du tranchant de la main. Sur la toile cirée, un cerf aux abois échappe à la meute. Les poules caquettent dans la cour. Un chat prend son élan. Un élevage.
Oui, c'est dur.
Un cycle là aussi, et ça on le trouve fortement, ces éleveurs traditionnels qui ont passé toute leur vie avec les bêtes, la fin du troupeau, c'est la fin de leur vie aussi, et on sent là en effet que sa vie c'était les bêtes, ce qui est dit, plus que sa famille. Et voilà, donc cette richesse de la vie avec les bêtes, mais une solitude aussi de la vie avec les bêtes qu'il ne faut pas oublier. Alors, pour terminer cette première partie, je me disais que je restais beaucoup là sur de choix de thèse quand même qui sont du côté d'un métier d'éleveur encore traditionnel, hein, qui puise ses racines dans un ancien monde paysan. Ce que je disais tout à l'heure, des exploitations agricoles de taille familiale, celle qu'on aime.
On est sur une nostalgie.
Hein, celle qu'on aime voir d'ailleurs, mais il y a une autre phase de l'élevage bien sûr, et dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et j'ai fait le choix volontaire de l'effleurer seulement pour privilégier la relation établie avec les bêtes et celle que nous aussi on peut sentir. Promeneurs, visiteurs, habitants, parce que les bêtes sont là autour de nous. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, en dehors de cette compagnie des bêtes, l'élevage où la bête est devenue machine à produire véritablement avec l'artificialisation de l'élevage, avec l'élevage intensif hors sol, et où en grande partie le lien tissé depuis des millénaires avec les bêtes domestiques a été oublié. Alors pour dire ça, j'ai voulu en rester sur un texte très court, mais c'est intéressant parce que c'est une poète écrivaine, Aurélie Olivier, qui est une jeune écrivaine, elle est née en 86, et l'intérêt aussi, c'est qu'elle est fille d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, de Trégrom, du côté de Belle-Île-en-Terre, Guerlesquin un peu, par là-bas. Et ce livre s'intitule « Mon corps de ferme », et elle raconte quelque chose de très personnel que je ne dévoilerai pas trop, mais qui est ses 18 ans passés à la ferme, de fille de ferme, son corps de fille de ferme, fille d'un agriculteur. Et les 18 ans après sa majorité, elle a choisi de partir et d'aller vivre ailleurs. Et le reste, pour l'instant de sa vie, elle a 36 ans quand elle écrit ça. Et ses deux facettes, et sa difficulté à trouver sa place est d'un côté et de l'autre. Elle a des textes beaux et rudes aussi. Je vais en lire un où elle parle de l'élevage d'aujourd'hui. L'inséminateur enfonce son bras dans le gant en plastique. Le gant en plastique enfonce le taureau dans la vache. Gestation, 9 mois et 10 jours. Forceps, vélage et inscription sur le registre de l'exploitation. Après 6 vélages, la vache disparaît. L'abattoir assure sa traçabilité. Pof.
Pof. Okay. Ah oui, là, c'est brutal. C'est du brutal.
C'est du brutal. Et elle réussit à rendre en très peu. Quand on écoute Jean-Loup Trassard, Parole de laine, le texte de tout à l'heure, plein de sensations, d'une volupté, d'une présence chaude des bêtes, et ce texte-là qui parle aussi d'élevage, on voit le fossé hein, qui s'est créé et qui est une réalité d'aujourd'hui. Voilà.
On va quitter les prés, on va s'envoler direction la forêt, et on va la retrouver dans quelques instants, le sauvage.
Mon seul espoir délivre-moi.
Le très bel oiseau de Pierre Facchini, Antoine Longini. Pourquoi Pierre Facchini encore?
Alors, voilà, une deuxième fois, parce que je trouve magnifique sa façon d'allier des univers. Il a des mélodies, celle-là est superbe. Alors, on sent, et puis il le dit, que dans son inspiration, il y a à la fois le chant, comme autour d'Henry Purcell ou John Dolan, 17e, 16e anglais. Il a une culture de ça, bien sûr. Mais en même temps, il y a quelque chose de presque orientalisant aussi. Il y a en fait, c'est joué avec une viole d'amour qui est de la famille des violes de gambe. Viole d'amour, il y a le psaltérion aussi, l'instrument pincé qui est médiéval, en effet. Donc, il y a une musique qui aussi vient d'un monde très ancien et qui va jusqu'à aujourd'hui. Et puis, moi, il me touche aussi pour le texte, qui est un texte de Pierre Facchini, qui est cette idée, alors très simple, que quand on entend un oiseau au matin, dans le jour qui est à peine paru, il peut nous arracher des ténèbres de la nuit, des ténèbres qu'on a en soi, et nous redonner un goût pour vivre, une envie de se lever aussi, d'aller vers la vie. Et là, on va retrouver quelque chose qu'on va voir dans la suite, qui est aussi ce besoin de cette faune sauvage autour de nous, de sa présence, et de ce qui se passe aujourd'hui aussi, la disparition en partie de cette faune.
Oui, car aujourd'hui, les lectures d'Antoine Longini nous emmènent à partir voir les bêtes. Et donc, on a vu les animaux domestiques, les vaches essentiellement. Donc là, on est dans les bois et on cherche le sauvage.
Voilà, on est en effet par les bois, là, vers la part du sauvage. Alors, les animaux sauvages qui sont là autour de nous, bien que le plus souvent, on ne les voit pas, ils sont invisibles. Et ce qui est intéressant, c'est les textes que j'ai choisis sont un peu cette idée que le monde sauvage est comme un envers de notre monde domestique. En fait, il est caché dans les replis de notre monde. C'est un envers qui est bien là, auquel on peut accéder par fragments, mais ça demande un effort. Et puis aussi, c'est parce qu'il est caché qu'il exerce une fascination et une certaine puissance d'enchantement. Et cette puissance d'enchantement et cette fascination, pour commencer, je vais revenir à quelqu'un que j'ai plaisir à lire, c'est Marie-Hélène Lafon, j'en ai déjà lu, je me répète peut-être.
Mais on s'en lasse pas.
Voilà. Et Marie-Hélène Lafon qui a écrit, j'avais lu des extraits de l'annonce, a écrit Joseph, Les Derniers Indiens, donc en deux mots, cette écrivaine originaire du Massif Central, du Haut-Cantal, de la vallée de la Santoire, qui fonde toute son écriture. Dans un livre d'entretien paru en 2019, où elle raconte les sources de son écriture, elle parle d'un mot que moi je n'utilisais pas, qui est la sauvagine. Elle va l'expliquer.
J'aurais cru que c'était une race de vache, moi.
Une race de vache ou une plante, la sauvagine. En fait, non, c'est toute cette vie sauvage qui est tapie dans nos vies domestiques et l'envers de notre monde avec ses bêtes familières, cette doublure secrète des choses. Et voilà ici ce qu'elle en dit. Parmi tous les animaux de montagne, j'ai une grande fascination pour le loup, de retour en Auvergne depuis les années 2000. Il vient des Alpes et jusqu'à présent, du moins à ma connaissance, ne fait que traverser nos vallées. Le loup qui sème forcément la panique chez les paysans est la bête des contes, sauvage, irréductible, embusquée aux lisières du monde civilisé depuis la nuit des temps. Son apparition signe le retour de la vieille sauvagine qui s'incarne dans sa peau. Le loup, c'est la nuit, l'hiver, la neige, Cro-Blanc et l'appel de la forêt de Jack London et les formidables contes peureux d'Henri Pourrat. Dans les 11 premières années de ma vie, sans doute une fois encore influencé par notre maître d'école, chasseur, pêcheur et fin connaisseur de la faune du pays, j'étais très tôt attentif à la présence sourde et tenace des animaux sauvages. Là-haut, nous vivons environnés par une multitude de créatures potentiellement inoffensives, dont les mœurs, les façons de vivre et de se reproduire m'échappent à peu près totalement. On aperçoit simplement les signes, comme la taupinière, des crottes et autres déjections, des traces sur le sol, le glapissement du renard, ou plus spectaculaire encore, le brame du cerf. La plupart du temps invisibles, ces animaux apparaissent parfois devant nous fugacement. On discerne parfois l'éclair d'un renard ou la silhouette d'un chevreuil. On sent tout cela. Ces bêtes vivent avec nous, se meuvent dans les plis de notre existence. Et dans ce fascinant mystère dont nous sommes cernés, le loup incarne ce qu'il y a de plus insaisissable et de plus puissamment sauvage. La sauvagine appartient à une famille de mots tournant autour de la notion de sauvage et à tout ce qui, dans le paysage, de près ou de loin, même de façon interstitielle, rappelle ce que l'on ne voit pas, les créatures non domestiquées, par opposition aux bêtes de la ferme, placidement domestiques, veaux, vaches, cochons, couvées. Tout éclair de la sauvagine, si fugace soit-il, me happe depuis la petite enfance parce qu'il éveille un écho profond dans mes cavernes intérieures où est tapie pour toujours ma propre sauvagerie. Sauvagerie inextinguible, que 40 ans de vie citadine policée n'épuiseront pas, voire même aiguiseront. J'ose croire que ce fond sauvage n'a rien perdu de sa verdeur. Le fait de vivre le plus souvent loin du haut pays n'y change rien. Le sortilège reste efficace. Je parle de sortilège, parce que cet enchantement du monde induit un rapport aux choses et d'abord au paysage, à la fois grave et très doux, vertigineux et jubilatoire. La sauvagine, qui suppose une violence toujours aux aguets, représente pour moi l'envers du monde. Il n'y a pas de sauvagine sans bête domestique. l'une va avec les autres. Lorsqu'on a grandi dans un milieu comme le mien, on a une conscience instinctive de cette doublure secrète des choses.
Donc la sauvagine, c'est quoi, l'âme du sauvage? Comment est-ce qu'on pourrait
voilà,
dire
ça? C'est, oui, c'est pour moi, c'est vrai, ça fait penser à ça, cet esprit du sauvage, cette âme du sauvage, en effet.
D'accord.
Et donc, en effet, lorsqu'elle parle de cette doublure secrète des choses, ça me faisait penser aussi à un texte que j'avais lu sur la nuit aussi, dans ce haut pays autour de la ferme, qui enveloppait la ferme d'une façon différente, épaisse, par rapport à la nuit dans les villes. Et alors, pour rester sur la sauvagerie, terminée, je voulais revenir à Claudie Hunzinger, cette écrivaine des Hautes-Vosges qui vit dans une ferme depuis 1965 à Bambois dans les Hautes-Vosges et qui a écrit des livres comme La Survivance et son dernier livre qui a un écho certain, Un chien à Mata, publié en 2022. Elle a écrit en 2014 un livre, Les Grands Cerfs, où, je ne vais pas raconter le roman, mais le récit est proche d'elle à chaque fois, c'est des formes d'autobiographie masquées. Il est question d'une femme qui habite en montagne avec son compagnon, entourée d'un clan de cerfs dans la forêt et qui, fascinée, passe ses nuits à essayer de les voir, les observer, passe en quête des cerfs. Et en même temps, l'autre face du monde, il y a la chasse, la grande chasse, et les chasseurs et les trophées de cerfs. Et cette cruauté du monde des hommes est très présente aussi. Je vais lire d'abord un petit extrait où elle parle de cette fascination, de ce désir d'aller voir les bêtes sauvages. Prudent, les cerfs ne sortaient pas encore à découvert. Je n'avais d'eux que des silhouettes lointaines, ou alors des traces. Cette même semaine, mi-janvier, sous la maison, calme plat, pas un bruit, j'ai croisé la première piste sortant de la forêt, dessinant une ligne nette dans la neige fraîche. Je l'ai suivie, ne pas me tromper de sens. L'arrondi indique l'arrière, la fente du sabot, l'avant. Je plaçais mes bottes dans les traces des sabots. Un pas, un pas, un pas. Un pas, et j'avais quatre hautes pattes. Je me disais, je suis un cerf. Je n'étais pas pressé. Ronces pourpres, bruyères grises, myrtilliers verts émergeaient de la neige. Mais c'étaient leurs effluves en mêlée et flottant, plus ou moins âcres ou poivrées, ou moisies, ou musquées, qui m'intéressaient, qui me renseignaient. J'ai choisi une odeur pour sa bouffée résinée, l'ébrouter un peu, un goût de bois vert. Suis passé à un bosquet doublement invisible. Suis passé à un bosquet doublé invisiblement d'un nuage sucré, les cisailler des dents, dresser ses antennes branchues, orienter ses oreilles, dilater ses naseaux, le vent, encore un pas, un autre. Je me suis arrêté à l'arôme d'une graminée qui avait subsisté malgré le gel, enrobée d'une vapeur presque imperceptible. Je l'ai rasé net, puis sur mes hautes pattes, comme doublé d'un autre, je m'y croyais vraiment. J'ai encore longtemps rôdé à travers les odeurs que personne ne peut voir, pareil à des esprits. Et traçant de grandes boucles, j'ai longtemps flâné, rêvé, erré.
Ah, c'est beau, elle se transforme en cerf.
Voilà, là ça va au-delà du désir d'aller voir les bêtes, c'est d'en être, d'en faire partie. Et il y a toute une partie du roman qui est autour de ça. Mais alors, comme on approche de la fin, dans ce roman, il y a aussi tout un chagrin et une colère sur la disparition de la beauté dans la nature et des ravages que l'homme y opère. Et je vais lire deux passages pour terminer qui est plutôt sur ce que nous faisons du sauvage. Ce sauvage nous fascine, nous appelle, et en même temps aujourd'hui, la biodiversité est très fortement atteinte. Ce sauvage, l'artificialisation...
On en a peur, enfin, faut bien dire ce qu'il y a.
On en a peur, bien sûr. On a cherché à l'éradiquer pendant très longtemps. Aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de personnes en rêvent, mais en même temps, il nous est étranger. Et puis aussi, le monde tel qu'il est produit sa disparition progressive. Et elle a deux textes que je trouve bouleversants, que je vais lire, deux textes courts sur la disparition en cours. C'était un été paradoxal, de joie et de profonde mélancolie. L'été précédent, je m'en souvenais bien, le jour même où le monde titrait « La sixième extinction de masse est en cours » et annonçait la disparition des espèces, nous avions été visités par un grand Mars changeant, plus vu depuis des années, entré par la porte-fenêtre grande ouverte. Son bleu métallique irisé. Et une heure plus tard, dans la prairie, était passé le voilier jaune taché de rouge et de bleu d'un macaron. Je n'avais pas pu m'empêcher de voir dans ces insistantes apparitions des visites d'adieu. La beauté vous salue bien. Donc je les attendais avec un peu d'angoisse. J'attendais leur retour. J'aurais voulu les revoir cet été-là. Je ne les ai pas revus. J'en restais stupéfaite. Je n'en revenais pas d'être témoin de la fin de notre monde, de la naissance d'un autre. Quel étrange privilège m'était échu là, assister au moment charnière de l'histoire de notre humanité. La catastrophe avait pourtant été annoncée depuis longtemps. On nous avait prévenus. Nous étions au courant. En 10 ans. Ça s'est passé en 10 ans. Sous nos yeux. Et j'en ai pris conscience seulement cet été-là. En 10 ans, quelque chose autour de nous, une invention, une variété des formes, une extravagance, une jubilation d'êtres qui s'accompagnait d'infinis coloris, de moirures, d'étincelles, de brumes. Tout ça avait disparu pour laisser place à un monde simplifié, appauvri, uniformisé, accessible aux foules et aux masses où les goûts se répandaient comme des virus. Et ce n'était pas un phénomène cloisonné, mais un saccage général. Cet été, je m'en souviendrai toujours. Je n'avais vu dans les prés que des papillons blancs, des pierrides, tous pareils. Ils voltaient du matin au soir en une sorte de tourisme de masse. Mais où était passé le flambé, l'argus bleu, l'aurore, le Robert le Diable, et le James Lajoie, et le Virginia, et le Roberto, et l'Emily Dickinson, et le Sylvia Plath, et le Grand Nacré, et les fourmis violentes dans l'orage? Chaque matin, les journaux titraient une nouvelle extinction, une nouvelle catastrophe. C'était l'été des catastrophes, et personne ne s'émouvait. Comment la jeunesse qui n'avait pas appris à écouter les oiseaux pourrait-elle regretter leur musique? Pareil pour les papillons. Ils ne seraient aux yeux des nouveaux enfants rien de plus que les minuscules dinosaures volants du monde qui avait précédé le leur. Il me semblait entendre s'élever de la terre un immense office des morts que personne n'entendait.
Eh bien si, on a parlé des insectes finalement. On en a parlé.
Et pas que les grands fers.
Merci Antoine. On se retrouvera encore une fois au mois de juin pour terminer ces promenades géographiques et littéraires. À bientôt.